Beluga, jour 1. Quand Ulysse a voulu monter dans le train à Lviv, au nord-ouest de l'Ukraine, la contrôleuse ne parlait pas anglais. Mais d'autres lui ont traduit qu'elle lui reprochait d'avoir oublié de payer une assurance avec son billet de train. Personne ne le lui avait dit. Mais ça ne changerait rien de s'en défendre maintenant, et en anglais en plus. Le train a les mêmes dimensions, les mêmes couchettes que ceux rencontrés de Kiev, la capitale, à Ivano-Frankivsk, plus à l'ouest, puis de Ivano à Lviv. Mais celui-ci est plus neuf, plus jeune, plus propre. Il parle moins à Ulysse.
Un passeport.
Il a ensuite fallu remplir la fiche de migration. Ulysse ne se souvient plus du nom de son hôte à Minsk, rencontré sur Couchsurfing, mais le retrouve ensuite sur la photocopie de passeport que celui-ci lui a envoyé. Il lui avait donné pour appuyer sa demande de visa pour la Biélorussie. Vadim X, République of Belarus, Minsk, Narosevitcha Street, 47-89. Ulysse pensait que la contrôleuse l'avait prise en grippe. Mais celle-ci a maintenant troqué son uniforme de gare pour son tablier d'hôtesse de train.
Vas-y, monsieur.
Elle lui sourit même en lui apportant son café, en entendant son timide «Дякую», «Merci», en ukrainien. Cette semaine qui s'achève, passée en Ukraine avant ce voyage, a été bénéfique. Réapprendre à écouter une langue slave, la froideur des gens à la première approche, d'abord, mais leur aide, une fois le premier pas franchi, ensuite. Pourquoi Ulysse en allait-elle pour la Bélarus? On lui demandait souvent, on ne comprenait pas. Certains avaient même cherché à la décourager, un peu. Dans son carnet de bord qu'elle déplie, Ulysse est tombé sur la nouvelle adresse de son père, à Saint-Étienne, en France. Comme une gifle que l'on prend, elle se rappelle que leurs blessures font exister les gens. Peut-être que, au milieu de son voyage, elle lui écrira, de loin, étouffer ce silence qui s'est creusé. Dans le train, Ulysse avait sa place réservée pour une banquette en hauteur. Quand les deux babouchkas, qui prendront les couchettes basses, arrivent, la jeune fille les aide à répartir tous leurs paquets cartons dans les rangements disponibles. Ensuite, comme toujours, la barrière de la langue fit son effet. Les grands-mères réussirent tout de même à apprendre son prénom, qu'elle allait à Minsk, qu'elle venait de France, que son père était catholique, mais pas elle. Puis elle assista à leur prière et se sentit un peu mise à part. Ces deux femmes avaient un beau regard rieur toutes les deux, et une voix douce quand elles chuchotaient. C'était bientôt la Pâque orthodoxe, enfin dans 2 semaines. Mais cette nuit, les babouchkas promenaient déjà les gâteaux traditionnels depuis l'Ukraine jusqu'en Bélarus. Parfois, elle aurait voulu croiser ses regards et leur sourire, mais souvent elle baissait juste les yeux. Pourtant, les gens n'étaient pas agressifs, pas démonstratifs certes, mais curieux surtout. Plus tard, elle prit conscience que, dans ce train qui avait moins d'odeur que les précédents, les haut-parleurs crachaient de la musique pop internationale actuelle. Alors les babouchkas continuèrent leur prière sur fond de Rihanna. Ulysse s'endort, bercé par le train de nuit. Les ronflements de ses voisines qui emplissent l'habitacle, leur odeur de transpiration forte et le cliquetis métallique de quelque chose pris dans la soufflerie du wagon. Dehors, Beluga sort de la nuit. Il nage à la fenêtre. Il regarde Ulysse dormir. Beluga, jour 2. C'était tout de même fou d'être tout le temps à ce point décalé, comme une petite erreur de tempo dès le départ qui l'avait, et pour longtemps, séparé du reste du groupe. Ulysse n'agissait pourtant pas différemment, mais toujours en retard, en avance, trop rapide ou trop lente, souvent trop bruyante. Elle ne comprenait pas, par exemple, pourquoi l'hôtesse l'avait réveillée une heure avant son arrêt à Minsk. Peut-être parce que, dans ces trains, il faut montrer qu'on se maintient propre, même après les 14 heures de trajet depuis Lviv. Alors, même si les toilettes vous salissent puisqu'elles ne vous lavent, tout le monde y passe, avec en main, bien visible, sa petite serviette éponge fournie par le service ferroviaire. Cette nuit, Ulysse s'était rendormi avant d'avoir appréhendé l'impression que lui avait laissé le passage de la frontière entre Ukraina et Belarus. Si elle n'avait finalement pas été fouillée, malgré toutes les histoires qu'elle tenait de ses amis frontaliers, elle pensait bien que c'était grâce à l'appui, d'une part, de ses deux nouvelles amies babouchka, qu'il avait assises entre elles, mais aussi à l'air perdu, que l'on veut aider ou aimer, qui se dessinait à la moindre tension sur son visage. Alors cette frontière, attendue comme agressive et morose, elle n'en avait fait, selon elle, qu'une bouchée. Mais maintenant, c'était un réveil brumeux. Cette nuit, elle avait eu l'impression qu'on croquait dans sa jambe droite, comme son mollet dépassait dessous le drap, depuis la hauteur de sa banquette. Bel appât pour le premier affamé venu. L'hôtesse lui rend son billet de train. Elle l'a gardé avec elle pendant les 14 heures. Ulysse regarde par la fenêtre ce qu'elle veut croire être la dernière forêt primaire d'Europe, comme elle l'a lu dans un guide que c'est entre ici et la Pologne qu'on la possède jalousement. Même s'il y a 30 ans, le souffle de Tchernobyl a rampé partout. Sur la même page, elle a lu qu'il ne fallait pas en parler. C'est un traumatisme national en Bélarus. Du bois coupé, du bois debout, de petites scieries et puis des marécages qui se glissent partout. Le soleil joue à suivre le train. Les yeux d'Ulysse naviguent entre les fenêtres qui l'entourent. Celles-ci délimitent son espace dans le train, mais aussi son regard sur l'extérieur. Elle approche de Beluga qui l'attend. Ulysse se gorge de détails qu'elle veut graver en elle déjà pour ne jamais oublier d'être arrivée une première fois dans une des dernières dictatures d'Europe. Il n'y a plus de journal indépendant depuis 2006. La radio, la télévision sont contrôlées par l'État, avait-elle lu sur un papier de l'Obs. Alors il ne fallait pas se mentir, Ulysse était un peu déçue. À la sortie du souterrain de la gare Vauxhall, l'imposante gare centrale de la capitale, au milieu du rideau de pluie qui l'avait accueillie, s'était tout de suite dressé devant elle un McDonald's volumineux. La télé de la cafétéria dans laquelle elle s'était réfugiée pour faire le point lui braillait maintenant dessus, sans discontinuer, toute la pop commerciale des dernières années. Certes, parfois c'était une chanson dont elle ne comprenait pas la langue, qu'elle croyait deviner russe, mais dont les danseuses mannequins, dénudées, s'alignaient parfaitement sur les normes des clips précédents. Ulysse avait aussi trouvé un coca qu'elle sirotait maintenant. Mais elle s'attendait quand même à quelque chose de plus tranché comme changement. Ulysse, cliché. Elle venait d'arriver et ne voulait déjà plus bouger. Le voyage nocturne, malgré la couchette, l'avait rendue fatiguée et bougonne. Quand même si, il fallait dire que les prix l'avaient déstabilisée. Elle avait payé son coca 16 500 roubles biélorusses, après avoir vérifié du regard que l'expresso en coûtait quant à lui 16 000. Du coup, combien retirer pour les premiers jours ? Ça lui faisait bizarre, tous ces billets dans son porte-monnaie. Elle avait l'impression d'en avoir trop, et que c'était mal. Elle hésitait. Prendre un taxi et se faire avoir, comme toujours à l'arrivée. Combien lui proposait-on ? Jusqu'où pouvait-elle négocier ? Ou bien alors se perdre une première fois dans les transports publics, mais découvrir la ville déjà, auprès de sa population. Bref, commencer à en être quoi. Il pleut déluge. On longe les grandes allées périphériques en s'éloignant du centre. Dans l'ensemble, tous les bâtiments en bordure des grandes allées sont carrés. Comme elle en voulait au chauffeur de taxi de probablement profiter de son statut de touriste, affiché car non dissimulable, elle décida de mémoriser les traits de cet homme. Elle n'oublierait pas les plis de son crâne, les cheveux épars, rasés, la nuque qui dit non et ne bouge plus. Par la fenêtre du taxi, elle regarde les gens. Personne à pied ou à vélo, tous et toutes, droits et droites dans leur voiture, en rang qui glisse doucement. Qu'est-ce que ça fait à ce chauffeur de bus qu'elle suit des yeux, de ne pas avoir le droit, par exemple, de frapper des mains dans la rue, comme c'est un geste jugé subversif. Est-ce qu'il y pense ? Mais alors, comment faire en Bélarus quand votre proche, votre ami, coupable à défaut, est accusé, condamné, emprisonné, disparu ? Comment vit-il dans ses règles ce peuple, plus habillé encore à l'occidental que les Ukrainiens ? Qui aurait été Ulysse si elle était née sous un régime extrémiste que rien ne peut contredire, où on n'en a plus le droit, ni plus l'espoir peut-être ? C'est la première fois qu'Ulysse a froid au dos, au milieu. Une barre glacée qui appuie sur toute sa largeur. C'est la première fois qu'elle ressent une peur irrationnelle pour un appareil étatique. Jamais auparavant, elle n'avait pensé risquer la prison injustifiée, ni que les gens autour d'elle puissent ne pas bouger, pas même d'un pouce, si elle venait à se faire arrêter, aléatoirement, comme ça, dans la rue. Elle avait l'impression d'avoir changé d'époque, tellement elle associait cette peur des arrestations arbitraires, de la délation, du système policier qui fait loi, à l'Europe du siècle passé. Ses pensées se tendent vers la France. Chez elle, l'augmentation des violences policières, surtout ces dernières années, ou en tout cas depuis qu'elle en a pris conscience. La déconnexion des hautes sphères pour le quotidien des petits budgets. La colère qui gronde, à laquelle on répond par des mutilations les jours de manifestation. Allez, bouge, Ulysse, bouge. Elle s'était prémunie d'une seule chose avant sa venue, son logement. Une base pour sa retraite à la fin de ses journées d'exploration. Le taxi dans lequel elle avait fini par monter aux abords de la gare l'avait déposée tout pile devant le bâtiment 47. Ulysse avait ensuite longé l'immeuble pour trouver l'entrée qui lui proposerait le numéro d'appartement 89, celui de Vadim et Ida. Vadim a écrit « My Wife » dans leurs échanges sur Couchsurfing. Quelqu'un lui avait tenu la porte de l'immeuble. Elle s'était engagée, conquérante, prête à gravir les étages. Dans le hall 3 où elle s'avance, les numéros d'appartement courent sur les boîtes aux lettres, du 72 au 108. 9e étage. La porte à gauche, tout de suite à la sortie de l'ascenseur, en panne. La porte du palier du couloir, le couloir des appartements 88 et 89. En appuyant sur la sonnette, elle était encore toute excitée de son succès. Elle n'avait pas eu à appeler à l'interphone, ni à demander son chemin. Elle était arrivée à la base seule, du premier coup. Le visage blanc d'Ida, qui lui avait ouvert d'un air désagréablement surpris, l'avait un peu refroidi. Le vernis bleu électrique de ses ongles agrippait la porte et son cadre, gardait l'entrée du chez-soi. Vadim étant au travail et ne parlant aucune langue en commun, Ulysse et son hôte s'étaient installés dans la cuisine pour partager un café. La nourriture, le lit en premier. Ida est retournée à la couture pendant qu'Ulysse joue avec le chat. Le gros félin gris d'orage, qu'il avait humé pendant de longues minutes avant de valider sa présence, était en fait le véritable maître des lieux.
Le chat s'appelle God.
L'appartement, dans sa disposition, ses fournitures, son odeur même, transpire son héritage de l'époque soviétique. Il ressemble à ce qu'Ulysse a déjà rencontré en Ukraine. La fenêtre de la cuisine donne sur des dizaines d'autres immeubles carrés comme le leur. Après coup, Ida ne semble pas dérangée par sa présence. Plusieurs fois, elle utilise Google Translation sur son portable pour traduire ce qu'elle veut lui dire. Ulysse apprend qu'Ida est née à Kiev, qu'elle a quitté l'Ukraine pour suivre Vadim et l'épouser. Aujourd'hui, elle a 21 ans. Elle trouve qu'Ulysse a l'air plus jeune que ses 25 ans.
Qu'es-tu venue faire ici ?
Ça a l'air de l'amuser, cette jeune fille loin de chez elle, à parcourir un nouveau monde alors qu'elle sera bientôt une vieille jeune, pas encore mariée, en retard toujours, même aux yeux rieurs d'Ida. Puis Vadim est rentré pour sa pause à 13h. 8h, 13h, 14h, 20h. Il parle anglais, elle le savait. C'est lui qui écrivait les mails. Mais c'est tout de même un peu de soulagement qu'elle ressent maintenant. Elle avait regardé sa photo sur la photocopie de son passeport avant d'apporter celle-ci à l'ambassade de la Bélarus à Paris, pour le visa. Vadim avait l'air jeune aussi, plus qu'Ida encore. Il lui demande tout de suite ce qu'elle compte faire à Minsk.
Why did you come here?
Rencontrer des gens ne parut pas lui suffire. Combien de temps Ulysse comptait-elle rester? Chez eux? Avait-il manqué d'ajouter non? Ou bien en Bélarus? Ils en avaient parlé pourtant, dans leur échange de mails, qu'elle resterait une semaine déjà, puis on verrait. Qu'elle ne savait pas trop à quoi s'attendre, ni prévoir comment le fil des choses allait se dévider. Dans la cuisine du petit appartement soviétique, Vadim parle maintenant de 2 jours, peut-être 3. Le sol sous les pieds d'Ulysse tremble un peu. Ils ne la garderont pas longtemps, alors? Pas plus qu'il ne le faut. Ce sera lui qui en décide. La pluie bat les fenêtres du 9e étage. Vadim enchaîne tout de suite sur l'enregistrement au commissariat, obligatoire pour tous les visitors. Il contredit Ulysse. Non, il ne faudra pas s'enregistrer qu'une seule fois, mais tous les 5 jours. Et votre hôte doit toujours vous accompagner. Mais alors, sera-t-il seulement prêt à le faire plusieurs fois pour elle? Et de toute façon, maintenant qu'il avait parlé en jours, pouvait-elle changer de lieu de résidence, bien que ce soit l'adresse de Vadim et Ida inscrite sur le visa collé dans son passeport? Des frontières, des contrôles, des laissez-passer ou l'immobilisation. Vadim se concentre maintenant sur sa galette de pommes de terre. Il coupe dans les bords avec minutie. Ida s'est assise entre eux. Elle a servi du café à tout le monde. Elle essaie de capter l'attention de son mari. Elle l'attend quand il n'est pas là. Le voyage s'arrêtait-il déjà dans 5 jours? Au loin, Beluga pousse un grondement sourd qui résonne à l'intérieur d'Ulysse, s'harmonise sur sa fébrilité. Vadim a disparu aussi vite qu'il a chamboulé l'après-midi. Le regard d'Ulysse a complètement basculé. Le gros chat gris a maintenant l'œil méchant. La couture fait patienter Ida enfermée amoureusement au 9e étage. Pays sans soleil.
Уже уходишь? Куда пойдешь сегодня?
Elle se sent si loin. Rien ne bouge aux alentours. Elle déambule au milieu des immenses briques de ciment silencieuses. C'est bien. Elle n'en attendait pas moins. Elle se met à courir. Demain, elle rencontrera d'autres personnes. Elles sont partout autour d'elle. Ulysse saute dans les gouttières. Ce soir, elle parlera à Vadim et Ida. Ils se sont mariés à la mairie en octobre dernier. Ils se marieront à l'église en mai prochain. Ida a besoin de papier biélorusse pour travailler. Elle n'existe pas ici. Pas encore. Beluga, première nuit. Hier, au soir du premier jour, quand elle avait voulu retourner à l'appartement 89, bâtiment 47, rue Narodsevitcha, district dont elle ne connaissait pas encore le nom, Ulysse s'était perdu. Plusieurs fois. À l'aller, quand elle avait quitté Ida et s'était enfoncée sous la pluie, une jeune fille, arrêtée précipitamment, lui avait montré le chemin jusqu'au métro. Ulysse l'avait suivie, un peu le nez en l'air, comme elle ne s'en remettait pas que s'étende sur tout le district, à perte de vue, un immeuble répété mille fois, toujours à l'identique. Quand elle ne contemplait pas cette immensité nouvelle, Ulysse était occupée à éviter les endroits profondément boueux, des raccourcis tracés par le pas de l'homme au milieu des pelouses carrées. Bref, elle n'avait pas été assez rigoureuse et elle s'en rendait seulement compte maintenant qu'elle était perdue dans la nuit du district. Mais tout de même, il ne pleuvait plus. Il faisait même bon dehors. Elle se sentait bien dans cette promenade improvisée. Ça tenait de la folie que tout se ressemble à ce point. Les mêmes bars en elle, avec au milieu les parcs pour enfants, rouillés, de petites pistes de course, des écoles de plein pied. C'était toujours les mêmes éléments de décor qu'elle retrouvait au coin de chaque tour. Seuls les numéros de bâtiments changeaient, mais ne se suivaient pas. Elle avait noté qu'elle avait traversé par deux fois une cour d'école, comme celle-ci servait aussi de cour d'immeuble. Du moins, c'est ce que cette nuit avait l'air de lui montrer. Elle vérifierait le jour venu. Ces cours, délimitées, n'étaient cependant pas fermées. On ne craignait donc pas ici l'enfant disparu à la sortie de l'école. Habitants et écoliers se croisaient pendant les récréations. L'espace commun, ça la fit sourire. Ulysse sentait aussi de la vie derrière les fenêtres éclairées, de différentes couleurs, différentes intensités. Ici, on regarde sûrement la télé, le cadre, découpé sur la tour de béton, bourdonne de lumière. Là-bas, on part dormir. La lumière une fois coupée, la fenêtre a disparu. On se fond à nouveau dans le décor sans bouger. Ces enclaves luminescentes cassaient l'ordre de ces grands espaces. Et elle les regardait, assise dans une cour d'école, d'enfants endormis dans le noir. Beluga passe d'une case éclairée à la suivante. C'est le moment de la journée où, enfin à l'abri de l'espace public, trahi seulement par leurs fenêtres, les grands se retrouvent. Lumière et nuit, un canevas lumineux hasardement assemblé, une forme extérieure, visible, enfin mal organisée, où l'aléatoire s'invite enfin, des rêves, blancs ou noirs, des nuits d'amour et d'engueulade, la télévision qui crache sa propagande, mais que l'on peut regarder de loin, en sous-vêtements dans sa cuisine. Ulysse le sent, pour la première fois ici, le désordre, la liberté recueillie au creux de ses lumières, trouvée et prise partout pour s'en nourrir. Elle aime. Une heure plus tard, son bel élan était un peu essoufflé, comme elle était toujours dehors, perdue, sous la pluie qui avait repris. Pourtant, des gens croisés, chacun pouvant être potentiellement son voisin de palier, l'avaient aidée, par trois fois. Un couple qui promenait son chien lui avait d'abord fait reprendre le métro, à la sortie duquel un plus jeune couple s'était disputé, comme il ne parvenait pas à s'entendre sur les directions à lui donner. Enfin, deux babouchkas lui avaient fait prendre la parallèle à la rue dans laquelle elle se trouvait, affirmant que ce serait là, Narodtsevitcha Ulitsa. En tout cas, c'est ce qu'Ulysse avait voulu comprendre, peut-être deviner, rêver. Tout avait l'air d'eux. Peut-être que l'immeuble 47 n'existe pas. Dans le métro, un militaire avec son gros sac uniforme. Il a d'abord semblé chez lui, le regard établi, mais était en fait discrètement sous. Est-ce qu'il pouvait aller en prison pour ça ? Alors qu'elle s'était assise sur les marches d'un escalier au milieu de tout cet ordre démesuré qui recommençait à lui faire peur, Ulysse a vu débarquer deux jeunes hommes, des copains, sous.
Please, do you know the way to go to Ulitsa Narodtsevitcha?
L'un d'eux l'a reconnue française, tout de suite. Ça a un peu surpris Ulysse.
What are you doing here?
Demanda-t-il en rigolant. Décidément, il devait sentir qu'Ulysse ne savait plus bien, là, tout de suite. Alors ce nouveau copain, grand et sous, Ulysse dans sa trace, a cherché le bâtiment 47, en U, le GPS de son portable activé, et a fini par le trouver.
Look, the street doesn't have a name on the map.
Le deuxième copain, taiseux mais rieur par les yeux, raccompagna Ulysse jusqu'au hall 3, qui renferme les paliers 72 à 108. Il lui dit au revoir, lui serra la main, son sourire se moqua gentiment d'elle une dernière fois, et il disparut derrière une barre d'immeuble, après s'être allumé une clope. Ulysse réalisa, trop tard, qu'elle n'avait aucun moyen de retrouver ses nouveaux alliés. Peut-être reste-t-il dans le district, à boire des coups dans la voiture après le travail, pendant que leur jeune femme les appelle sur leur portable pour qu'ils rentrent manger. Vadim et Ida, Ida et Vadim. Elle retombera sur eux, ou d'autres, puis, sans lui dire qui ils ou elles sont, ces personnes la raccompagneront chez d'autres, qui ne lui en ont pas dévoilé plus. Elle en est sûre. Tout ce petit monde, s'il se rencontrait, s'accorderait au moins sur un point. Le fait qu'Ulysse, en revanche, elle, parle d'elle-même, qu'elle n'est pas mystérieuse du tout. Déjà, et avant tout, elle n'a pas l'air d'ici. Elle a toujours l'air perdue, surprise, en recherche, elle a toujours l'air de ne pas savoir. Pendant que, tout autour d'elle, les gens avancent avec quelque chose dans le regard qui ne laisse pas place au doute. Vadim lui a ouvert et s'est recouché. Ulysse se rassure un peu en découvrant Ida profondément endormie. Dans leur salon-chambre, Vadim retourne dans les bras de sa jeune mariée. Dans un coin, ils ont entassé un tapis, un matelas de camping, plusieurs épaisseurs de couverture et un drap. Deux oreillers complètent le couchage. Ulysse découvre son lit et, dans le même temps, le gros chat qui s'était endormi dessus jusqu'alors. Il la fixe d'un œil désapprobateur. En retard, comme à son arrivée, elle l'a réveillé. Ils lui ont préparé un lit. Elle peut rester alors. Derrière la fenêtre du salon, il y a le balcon fermé, qui donne sur des dizaines d'autres petits balcons fermés et des milliers de fenêtres, éteintes maintenant, et 9 étages de vide. Au loin, en mouvement entre les immeubles, Ulysse entend Beluga se moquer doucement d'elle. Beluga, jour 3. Ce matin, quand elle s'est réveillée, Ulysse n'avait pas trouvé bizarre de se trouver là. À côté d'elle, le gros chat gris ronflait. Ida, qui était sortie, est rentrée rapidement après qu'Ulysse se soit levée. Comme si elle l'avait senti. Elle, qui avait passé la journée précédente en pyjama, a pris un air vieilli aujourd'hui. Les cheveux lissés, une robe droite, kaki, des bottines à talons, et puis sa manucure bleu flashy toujours. Cette dernière seule l'a rattachée à la Ida d'hier. Alors qu'Ida sourit à sa vue, Ulysse se sent un peu habité ici. Vadim lui avait donné rendez-vous pour aller ensemble au commissariat, pour qu'Ulysse soit enregistré au palier 89, bâtiment 47, Ulitsa Narodsevitcha, district. Elle ne savait toujours pas. Il se remit à pleuvoir alors que le bus les amène encore plus loin que la cité dortoir de Vadim et Ida. Ils traversaient d'autres districts et, elle ne pensait pas que ce soit possible, l'architecture, l'utilisation de l'espace était de plus en plus déshumanisée. Pire que leur district, ici pas de petits kiosques, pas de magazines, ni même de formes ou de couleurs différentes pour les immeubles. Juste des cubes identiques alignés le long de la route, puis, derrière, une déclinaison en parallèle. Parfois, un arrêt de bus divertissait ce paysage, sinon, rien. Il pleut, fort. Elle imagine Beluga se laisser glisser dans la boue, et les gens baissent les yeux. C'est l'effet de la pluie. Ils descendent du bus. Vadim se repère à l'aide de son téléphone portable. Il traverse une école, c'est l'heure de la récréation. Tout est gris partout, sauf les joues des enfants. Tous impliqués dans leur jeu, sans dépasser le périmètre tracé au sol de la cour ouverte. Bouge Ulysse, bouge. Vadim se retourne pour l'attendre. Il n'a pas vu qu'il marchait trop vite. Il lui apprend qu'il y a une école par district. Ulysse demandera plus tard les limites d'un district. Pour l'instant, ils attendent leur tour pour l'enregistrement. Sur la porte, il est écrit, et traduit en anglais, que la pièce devant laquelle ils attendent et dans laquelle ils vont entrer est placée sous enregistrement sonore et vidéo. Un groupe au style détonnant, cuir marron et noir, rouge à lèvres rose, tous plus de 50 ans, débarquent bruyamment. Beluga grogne. On les envoie froidement attendre à la suite des autres. Dans le bureau, une femme en uniforme militaire s'occupe de leur cas. Avant de venir, Vadim lui a dit de répondre que 5 personnes habitent dans son appartement, mais pas sa femme. Mais Ulysse ne parle pas. Non, elle n'a pas son papier d'assurance.
De toute façon, il faudra revenir. Ramenez les papiers à remplir. Non, ne les remplissez pas ici. Rentrez chez lui.
Vadim fronce très légèrement les sourcils. Les horaires de son bureau ne correspondent pas à ceux de l'office d'enregistrement, qui en plus sera fermé demain. Et là, tout de suite, il a déjà une demi-heure de retard sur la reprise de son travail après la pause déjeuner. La dernière fois, il avait accueilli un Canadien. 5 fois, il avait dû revenir à l'office.
It's like they do everything to make foreigners not coming back to Belarus.
Mais alors qui, dans les après-midi de pluie, tiendra compagnie à Ida? Bonne nouvelle quand même. Dans le bus qui longe à l'inverse les mêmes immeubles, sous la pluie, toujours, Vadim peut enregistrer Ulysse pour 2 semaines d'un seul coup. S'ils réussissent demain, tout sera bien. Ulysse se réchauffe un peu. Vadim est descendu, vite, tout aussi rapidement il a disparu dans la grisaille extérieure. Ulysse ne reconnaît pas cette banlieue dans laquelle le jeune homme s'évapore. Il s'en est retourné travailler, elle ne sait pas ce qu'il fait.
« It's difficult »,
avait-il répondu. Ulysse est resté dans le bus, debout. Son bras tendu, seul, la maintient en équilibre, la retient du flot de pensées qui la chahute. Elle ne sait pas bien ce dont elle a envie, alors elle se laisse glisser avec le bus.
Elle est comme jetée là. Elle sait que par là, c'est la ville. Mais c'est tout. Sortie à la place centrale, la jeune femme croise quelques silhouettes, fantômes grisés dans le vent du crépuscule qui court au travers des immenses allées blanches du centre-ville, reconstruites après la Grande Guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale. La Cité Blanche, cité modèle voulue par Staline, les larges avenues pour les parades des chars militaires. La rue principale bordée de bâtiments carrés, classieux dans le décor d'apparat, d'une stature impressionnante, que l'on ressent écrasante, ce pourrait être Oslo. Non, ça ne pourrait pas, lui chuchote Beluga en jouant dans les flaques d'eau. Ulysse se calfeutre dans le premier café-restaurant qu'elle croise. Elle s'assoit sous la seule lampe qui s'éteigne et se rallume aléatoirement, trébuchante. Elle va même commander une vodka, faisant les choses jusqu'au bout. Demain, les choses recommenceront. Mais ce soir, elle prend le temps de faire partie du décor, d'être pour la première fois la Ulysse de Bélarus.